France Inter. Éric Delvaux. Le 6-9 du week-end.
Bonjour Franck Riester.
Bonjour.
Ministre délégué en charge du commerce extérieur. On va en parler dans un instant. D'abord, c'était hier soir le projet de loi sur la sécurité globale adopté avec son article 24 controversé qui punit de prison la diffusion malveillante d'images de forces de l'ordre. Au final, Gérald Darmanin a dû d'ailleurs revoir sa copie pour dire que cette mesure ne porte pas préjudice au droit d'informer. D'ailleurs, le floutage n'est même pas mentionné dans le texte. On a envie de dire tout cela pour cela. Et je m'adresse peut-être d'abord à l'ancien ministre de la Culture que vous avez été. Était-il bien utile pour le gouvernement de se lancer dans cet article ?
Écoutez, c'est important en tout cas de donner des sécurités pour les forces de l'ordre qui sont parfois jetées en pâture sur les réseaux sociaux. Pour autant, il faut aussi protéger la liberté de la presse et la liberté d'expression. Et je pense que le compromis qui a été trouvé au Parlement, fruit d'une discussion au Parlement, va vraiment dans le bon sens. C'est le rôle du Parlement. J'étais ancien ministre de la Culture, mais j'étais aussi ancien parlementaire. Mmh. Et le gouvernement propose des projets de loi, ils sont soumis à débat. Il y a eu un débat au Parlement, il y a eu un débat dans l'opinion. Et le texte a été modifié pour prendre en compte cet élément essentiel qui est la liberté de la presse. Nous devons continuer de pouvoir informer, y compris quand les forces de l'ordre ne font pas correctement leur travail.
Si c'est pour dire que le droit d'informer est maintenu, ça existe déjà dans la Constitution, dans la loi de la presse de 1881. Pourquoi voter un article qui ne fait que confirmer ce qui existe déjà ?
Non, il confirme pas exactement ce qui existait déjà. Il prend en compte une réalité nouvelle qui est la question des réseaux sociaux. Vous savez, on est face à un défi exceptionnel qui est le défi de la révolution numérique avec toutes les opportunités que nous devons saisir, mais aussi avec toutes les menaces et les dangers qu'il y a avec ces réseaux sociaux. Et donc, il faut adapter notre outil législatif en trouvant le bon passage entre les libertés fondamentales auxquelles nous sommes attachés, à commencer par la liberté de la presse, qui est un des fondements de notre démocratie, et en même temps la protection de celles et ceux qui nous défendent, qui nous protègent, mais qui peuvent parfois avoir des comportements qu'il est nécessaire de dénoncer.
Alors Emmanuel Macron va prendre la parole mardi, peut-être pour annoncer la réouverture sous condition de commerce de proximité. Ce serait envisageable, selon vous, à quelle échéance ? Peut-être samedi prochain, dès samedi prochain pour les petits commerces ?
Écoutez, c'est le président de la République
bien sûr.
Qui...
Mais Jean Castex a parlé du 1er décembre.
Oui, qui après avoir consulté le Conseil de Défense et les différents acteurs qui permettent de prendre la décision en toute connaissance de cause, prendra la décision. L'objectif, il est double. Un, absolument continuer de protéger nos compatriotes, de contenir la circulation du virus et en même temps de faire en sorte de moins possible pénaliser l'économie. C'est cet équilibre qui est difficile. Manifestement, il y a des résultats. Les efforts des Français payent avec ce deuxième confinement et donc il est le moment de réfléchir aux différents moyens, étapes, pour libérer un peu un certain nombre de contraintes qui ont été fixées dans le cadre du deuxième confinement, notamment l'ouverture des commerces.
Mais le pic de la seconde vague a été franchi, là, on peut considérer ça ?
Oui, Olivier Véran l'a dit, et les chiffres le démontrent. Pour autant, rien n'est gagné. Il faut essayer de faire en sorte que ce processus d'assouplissement d'un certain nombre de mesures permette aux commerçants notamment de pouvoir rouvrir. On sait que c'est important, notamment dans cette période, puisqu'on est à quelques encablures des fêtes de Noël. Et en même temps, s'assurer que nous ne repartons pas dans une troisième vague. Vous savez, franchement, quand on est un décideur politique, on se passerait bien de dire à des acteurs économiques qui sont souvent dans des difficultés économiques majeures qu'on peut pas leur permettre de travailler. Mais en même temps, on a une responsabilité de protéger nos compatriotes. Vous savez, j'étais encore cette semaine à l'hôpital de Coulommiers, j'étais maire de Coulommiers, j'ai rencontré les personnels, j'étais aux obsèques d'un de mes anciens adjoints. Le virus, il est là, il est dans nos territoires, il touche nos familles, il faut se protéger et en même temps trouver les voies et moyens pour que ça n'ait pas des conséquences dramatiques en matière économique. Ça, on a déjà. Le gouvernement met beaucoup de mesures pour protéger l'outil économique, protéger celles et ceux qui travaillent dans les entreprises de ce pays, à commencer par les commerçants, qui bien souvent ont des faibles revenus.
Et une trajectoire et donc, peut-être sur la culture aussi, annoncée peut-être mardi ?
Exactement, parce que la culture est évidemment directement touchée, je suis bien placé pour le savoir comme vous l'avez dit tout à l'heure, directement impactée par cette crise. Et croyez-moi que les décisions du président de la République seront prises à l'aune aussi de cette problématique-là, qui est la problématique économique et la problématique culturelle.
Eh bien, dans cette difficile équation, c'est un peu tout de même la victoire de la politique de Bruno Le Maire, qui veut effectivement que l'économie tourne plus vite, contre, c'est peut-être un peu fort, mais enfin, contre la politique du ministre de la Santé, qui lui aimerait d'abord qu'on aille soigner les gens.
Non, franchement, vous savez, les discussions qu'il y a entre membres du gouvernement...
Le Black Friday, par exemple, c'en est une illustration, non ? Il y avait d'un côté l'aspect sanitaire et de l'autre côté l'aspect économique.
Non, le Black Friday, c'était l'idée de dire on ne peut pas donner la possibilité à des acteurs de l'e-commerce de faire des promotions exceptionnelles à un moment, oui. Et donc faire des affaires exceptionnelles à un moment où les commerces sont fermés. Mm. Et ça n'avait rien à voir, pardon, avec la question sanitaire. Pour autant, bien sûr qu'il y a des débats, bien sûr qu'il y a des discussions en disant, ben voilà, est-ce que si on ne rouvre pas à cette date-là les commerçants, quels seront les impacts sur leur activité ? Si on ne rouvre pas un certain nombre de lieux culturels, quelles seront les conséquences sur leur activité ? Mais en même temps, il faut prendre en compte les conséquences qu'aurait une rouverture trop vite de ces endroits où on se croise, où on est en proximité, et où il y a un risque que la circulation du virus soit plus forte.
Donc ça a quand même à voir avec, puisque si les commerces sont fermés, c'est parce qu'il y a...
Je parlais du Black Friday en tant que tel.
Est-ce que vous avez rencontré, en tout cas c'est ce que vous deviez faire hier, des personnes du monde de la santé de chez Pfizer et Moderna? Vous les avez vues?
Oui, on les a rencontrées dans le cadre de ce qu'on appelle des mini Choose France, c'est-à-dire des webinaires où on parle avec des investisseurs étrangers qui sont déjà investisseurs en France ou qui seront investisseurs en France, des dispositifs qu'on met en place en France pour améliorer la compétitivité de notre pays et de faire en sorte que ce plan de relance permette à des investisseurs de continuer, notamment dans l'industrie, notamment dans le secteur de la santé, en France, et pour créer l'emploi et pour créer de l'activité.
Et là, il s'agit des vaccins.
Et alors, il s'agit d'un certain nombre d'entreprises qui étaient présentes hier, qui produisent des vaccins. Et donc, on a parlé essentiellement des conditions de leur compétitivité, plus que spécifiquement de leur stratégie vaccin.
Allés très vite, quand même. Ils ont fabriqué...
Oui,
en laboratoire, des choses très vite.
Il y a une mobilisation mondiale très forte pour trouver un vaccin. C'est essentiel. Je pense qu'il y a plusieurs, évidemment... laboratoires qui ont des études très poussées et d'une création d'un vaccin.
Qui connaissent le mode d'emploi de la protéine.
L'enjeu, c'est ensuite de pouvoir mettre à disposition ces vaccins.
Oui.
Et donc, c'est toute la stratégie que prépare Olivier Véran au niveau français. Et la stratégie mondiale qui est en train d'être élaborée avec les chefs d'État et de gouvernement, notamment sous l'impulsion du président de la République, avec l'initiative ACT-A, qui vise à faire en sorte qu'on s'assure que ce vaccin et plus largement les traitements du Covid pourront être accessibles très largement dans tout le monde entier, et y compris dans les pays où leurs moyens financiers ne sont pas forcément à la hauteur de ce qui est en théorie nécessaire pour pouvoir fournir d'une façon rapide et universel les vaccins.
Le marché
c'est le cas par exemple
de
l'Afrique en particulier.
Oui, bien sûr. Et le marché est juteux, commercialement parlant.
Il faut que les investissements de ces laboratoires dans la recherche et l'innovation pour permettre de trouver un vaccin puissent trouver ensuite une réponse, un retour financier. Mais ce qui compte avant tout, c'est que ces vaccins puissent être mis à disposition du monde entier le plus vite possible, de la façon la plus équitable possible. C'est un grand défi. C'est un défi en France et c'est un défi dans le monde entier.
Et comment est-ce que la France s'y prépare? Il y a un calendrier pour l'arrivée de ces virus. On parle au ministre du commerce extérieur, là, des échanges commerciaux.
L'arrivée des vaccins.
Bien sûr, vous faites bien de le corriger.
Écoutez, c'est des discussions qui sont entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Économie et Finances, et notamment du ministère de l'Industrie, pour voir quelles sont à la fois la capacité à produire les vaccins ou à s'approvisionner en vaccins, et puis deuxièmement, voir quelle est la campagne de vaccination en fonction d'une hiérarchisation entre celles et ceux qui ont
les plus vulnérables d'abord.
Comme pour le vaccin pour la grippe, finalement.
Oui, d'une certaine façon. Et ensuite, j'insiste beaucoup, parce que le président de la République y est très attaché, c'est aussi la responsabilité des pays qui vont produire ces vaccins, de les mettre à disposition de toute l'humanité. Et ça, c'est un grand enjeu. Ça va être forcément dans la discussion du G20 aujourd'hui. Et c'est les discussions qu'il y a eu au sein du Conseil européen cette semaine. Les Européens et le Président de la République en premier lieu sont mobilisés pour que ces vaccins soient accessibles au monde entier le plus vite possible.
Alors ce G20 à distance, sous la houlette de l'Arabie Saoudite, on va y parler de quoi ? De l'allègement de la dette, de la pandémie, du combat pour le climat ?
Vous avez bien résumé le sujet de discussion. Vous savez que le multilatéralisme est en crise avec les États-Unis qui sont sortis de l'accord de Paris, sont très récalcitrants à faire fonctionner normalement l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. On peut avoir un signe d'espoir avec l'engagement de Joe Biden de revenir dans ces instances multilatérales. C'est essentiel parce qu'il y a un certain nombre de sujets qui se traitent au niveau régional, si on peut dire, par exemple au niveau européen, et d'autres dont les réponses sont au niveau global, au niveau multilatéral. Et c'est pour ça que le G20 est important, c'est ces grandes puissances qui décident d'un certain nombre de sujets qui sont importants pour l'humanité tout entière, et notamment la question du climat, et notamment la question des dettes d'un certain nombre de pays, notamment les pays d'Afrique, parce qu'on voit bien qu'avec la crise, les difficultés de financement de ces économies a été amplifiées d'une façon très importante. Là aussi, la France est à l'initiative, puisque au mois de mai, à Paris, aura lieu une grande conférence sur le financement des économies africaines, parce que nous devons revoir la façon dont sont financées ces économies africaines, sont financés ces États africains, parce qu'aujourd'hui ils sont dans une situation de dette qui est préjudiciable pour leur développement futur.
Et ils sont aussi sous l'influence de plus en plus de pays comme la Russie, la Chine.
Tout à
fait. Et il s'agit que la France reprenne un peu du marché sur place.
Alors, on a une stratégie finalement de renforcement de nos relations économiques avec les pays africains, mais au-delà de ça, et je me suis rendu en Afrique du Sud, je me suis rendu au Maroc, je me rendrai au début d'année prochaine dans un certain nombre de pays africains, parce que pour nous, l'Afrique est absolument prioritaire. C'est un continent qui est aux portes de l'Europe. Il faut savoir que les villes africaines doublent de population tous les 10 ans. Il y a un potentiel considérable économique pour l'Europe et pour la France en particulier. Il faut s'en saisir. Mais en partant d'un principe qui est de rénover la relation avec l'Afrique. De rénover la relation par l'Afrique, c'est-à-dire que c'est d'être dans une relation gagnant-gagnant. C'est-à-dire des partenariats de long terme, avec des investissements faits par la France en Afrique. Il y en a déjà depuis longtemps, mais de l'accroître pour que se développe aussi en Afrique des industries, des services. Et je vous assure, quand vous allez en Afrique du Sud, comme je suis allé au Maroc, comme j'irai vraisemblablement très rapidement au Kenya, en Éthiopie ou au Nigeria, il y a un développement économique potentiel exceptionnel et la France veut y prendre toute sa part. Pour autant, nous devons regarder aussi la question de la dette, parce qu'il faut le faire d'une façon responsable. Et c'est pour ça que cette initiative française qui va être évoquée, notamment au G20 aujourd'hui et surtout au sommet de Paris en mai prochain, pour prendre en compte la dette africaine et de voir de quelle manière on peut la rendre plus durable et plus soutenable.
Franck Riester, est-ce que l'attribution de la présidence de ce G20 à l'Arabie Saoudite ne pose pas un problème? Le roi Salman et les droits humains, ça fait deux. Des voix dissidentes qui sont réprimées, des militants qui sont en prison, des journalistes qui sont assassinés. Il y a des disparitions plus ou moins mystérieuses, sans parler de la condition des femmes, dont on peut dire qu'elles sont mises sous tutelle, la peine de mort y compris pour les mineurs, enfin la liste est longue comme un bras. Comment est-ce qu'il faut agir, réagir avec des pays?
Vous savez, il y a un grand nombre de pays où il y a ce type de problème.
Bien sûr.
Le choix que fait la France, c'est à la fois de travailler avec ces pays-là, et en même temps d'avoir le courage et la force de dire un certain nombre de choses et de ne pas mettre sous le tapis ces problématiques-là. Et
la France, ne pas mettre sous le tapis, la France dira un mot sur ces sujets pendant 2 jours ?
Alors, la France a régulièrement l'occasion de s'exprimer spécifiquement sur ces questions-là, directement auprès des différents interlocuteurs qui sont les siens dans les différents pays qui sont concernés par ce type de problématique, mais aussi de le faire dans des instances plus multilatérales. Là, je ne sais pas si ça sera à l'ordre du jour d'un G20. Vous savez, un G20, ça se passe en plus digital. Oui. C'est chaque chef d'État qui prend la parole l'un après l'autre sur des sujets qui sont, comme vous l'avez rappelé, d'importance unique. Le développement durable, la gestion du Covid-19, les dettes africaines.
Mais on peut faire passer des messages malgré tout.
Mais on peut faire passer des messages. Je ne suis pas certain que ce soit lors de la tribune du G20 que ce soit la meilleure façon de faire passer le message.
Un mot sur le boycott depuis près de 3 semaines. La Turquie, une partie du Moyen-Orient, les Émirats aussi ont appelé au boycott des produits français par ceux qui estiment qu'Emmanuel Macron se moque du prophète. Est-ce que d'abord ça a été économiquement très préjudiciable à la France ?
Il y a eu des conséquences sur le boycott qui sont relativement circonscrites, mais on ne peut pas le nier. Aujourd'hui, les appels au boycott se calment. Il y a encore quelques pays où le boycott est présent, environ 5, 6 ou 7, surtout 5. Il faut absolument trouver des solutions pour que le boycott cesse. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je me rends en Jordanie demain soir, pour un déplacement d'une journée, ensuite aux Émirats Arabes Unis, parce que il est important, avec un pays ami comme la Jordanie, veiller à ce qu'il n'y ait aucun malentendu sur ce que est la position de la France concernant l'islam, et puis deuxièmement, de retrouver avec la communauté économique sur place les voies et moyens pour faire stopper ce boycott. Clairement, c'est dans la lignée à la fois de l'interview du président de la République à Al Jazeera. Du déplacement de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères dans le monde arabe. Nous avons besoin d'expliquer ce qu'est la position de la France. Nous ne sommes évidemment pas un pays qui attaque l'islam ou toute religion. C'est tout l'inverse. Nous sommes un pays qui permet à chaque française ou à chaque Français ou à chaque personne sur son territoire de pouvoir pratiquer sa religion librement, à commencer par l'islam. Les musulmans sont des citoyens à part entière, bien évidemment. Par contre, nous sommes attachés, un, à lutter contre le terrorisme islamiste, et deux, à protéger nos valeurs, à commencer par la liberté d'expression, notamment la liberté de caricaturer.
Connaît ce message-là, il faut l'expliquer. Mais c'est la Turquie et son leader Erdogan qui souffle sur les braises. Oui. On n'a plus de rapport du tout, ni économique, ni politique avec lui.
Et il y a des Arméniens qui ont dit, est-ce que vous attendez qu'ils soient aux portes de Vienne pour avoir peur ?
C'est vrai que la Turquie joue un rôle condamnable en matière d'instrumentalisation du discours du président de la République ou des positions de la France, afin de nuire à la France et nuire aux valeurs que porte la France. Il faut le dire, et je le dis.
Est-ce qu'on a encore des contacts économiques avec eux ?
On le voit, et d'ailleurs ça s'inscrit. Oui, on a des rapports économiques avec eux, des rapports politiques avec eux, et c'est important parce qu'on souhaite que la Turquie change, on souhaite que ce comportement change, ce comportement d'expansionnisme en Méditerranée orientale avec ses forages qui portent atteinte à la souveraineté chypriote et grecque, cesse les comportements, notamment en Afrique du Nord, avec un certain nombre de trafics d'armes, cesse de instrumentaliser la question migratoire par rapport à l'Europe. On sait bien qu'il joue sur cette corde-là et ce n'est plus possible. Et donc, nous avons un discours très clair avec la Turquie, qui est un grand peuple, qui est un grand pays, avec lequel on a envie d'avoir des relations diplomatiques et économiques, mais avec lequel on doit avoir un discours de vérité, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est un discours que porte l'Europe, et pas simplement la France. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, une nouvelle fois, au prochain Conseil européen, cette question turque sera abordée, pour voir de quelle manière on contraint peut-être un peu plus, voire beaucoup plus, la Turquie, parce que son comportement, notamment dans la crise du Haut-Karabakh, est inadmissible.
Franck Riester, il nous reste un peu plus d'une minute. Je voudrais vous parler de la guerre commerciale avec les États-Unis. Les Européens ont été autorisés à leur tour par l'OMC d'appliquer ou de surtaxer les importations américaines. Que trouve-t-on d'ailleurs dans la liste des produits américains que les Européens vont payer plus cher ?
Des avions déjà, Boeing et oui. Puis un certain nombre d'autres.
La liste est déterminée, définie, ça a été négocié.
Oui, ça a été défini, négocié. C'était défini par la Commission après négociation avec les États membres. Il y a des produits agroalimentaires, il y a des produits d'équipement, il y a des tracteurs, il y a du ketchup, il y a du jus d'orange, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de dire, on a besoin d'être dans une relation renouvelée avec les États-Unis. On doit être d'égal à égal. Donc, l'Europe doit assumer sa puissance commerciale et économique. Et donc, à partir du moment où, malgré toutes nos démarches, les États-Unis n'ont pas retiré leur taxe sur Airbus, eh bien, on a dit qu'à partir du moment où l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, nous a permis de le faire, on a, nous aussi, appliqué des surtaxes aux produits américains. L'ambition, c'est qu'ils comprennent qu'on est une puissance, qu'on doit être respecté, qu'on joue à égal, et que donc on rentre dans une négociation apaisée, pour qu'ensemble, il y ait une désescalade des taxes, parce que c'est l'intérêt de personne, c'est pas l'intérêt des entreprises françaises, c'est pas l'intérêt européenne, c'est pas l'intérêt des entreprises américaines. À un moment où on est en crise économique liée à la crise Covid, nous devons trouver les voies et moyens pour que les échanges commerciaux reprennent plus fortement. Et c'est pas en mettant des surtaxes qu'on le fera. Pour autant, l'Europe doit être respectée et on se fait respecter à travers ce type de taxes.
Et avez-vous déjà quelques signaux pour penser qu'avec Joe Biden, ça va changer de ton ?
Alors, ça va changer de ton. Ça va changer sur la partie de développement durable, puisque vous avez, il a annoncé qu'il allait revenir sur l'accord de Paris.
Enfin, qui n'est pas un accord contraignant, donc c'est plus facile.
On va le retrouver dans les institutions multilatérales. Pour autant, sur les questions commerciales, ça continuera d'être dur. Et pour qu'on puisse être entendu, il faut aussi que nous soyons forts. Les Européens ont montré qu'ils étaient unis en la matière et forts. Je vois d'ailleurs dans les premières discussions que nous avons avec l'administration américaine que l'état d'esprit change. Ils ont compris qu'on ne céderait pas et qu'on continuerait de protéger nos entreprises.
Merci Franck Riester qui sera donc demain en Jordanie pour expliquer la politique de la France et notamment sa politique des droits de l'homme et sa politique commerciale. Merci d'être venu le dire ce matin sur France Inter. Il est 9h20.